à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Bastier. Fabrice Bastier, vous avez 5 enfants, vous êtes aujourd'hui à la retraite et vous êtes de Pibrac. D'abord, bonjour.
Bonjour.
Fabrice Bastier, vous êtes quelqu'un que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir parce que je sais que vous avez fait, que vous faites plein de choses. Et parmi elles, on évoquera ensemble deux sujets. D'abord, l'association Notre-Dame des Frères de la Rue que vous présidez depuis de nombreuses années. Et puis, vous êtes également aumônier de prison à la présidente Seyss. Donc, c'est les deux sujets sur lesquels on reviendra dans notre débat. Mais avant, je voudrais que vous me racontiez, que vous nous racontiez un petit peu ce que vous venez de me dire sur l'histoire de votre conversion. Vous m'avez dit que j'étais d'une famille chrétienne, mais je n'étais pas très proche de la religion catholique. Et puis un jour, j'ai eu un choc. Racontez-nous ça.
Oui, effectivement, je suis d'un milieu chrétien, classique. Mes parents pratiquaient, mes grands-parents, enfin, comme ça se faisait dans le passé.
Mais catholique.
Effectivement, en dehors, on va dire, de l'Église. J'étais un pratiquant un peu hypocrite. Et en 88, c'est vrai que je faisais déjà le pèlerinage national à Lourdes. J'avais eu l'occasion d'être très proche du service de sécurité de Jean-Paul II quand il est venu en 83 à Lourdes. Et cet homme m'avait énormément marqué. C'était déjà un processus de conversion, mais très modéré, hein. Je commençais à être intéressé. Et puis en 88, j'ai senti un appel à aller, ma mère y avait été, plusieurs personnes de ma famille, à Medjugorje. C'est un lieu d'apparition,
mariage. En Yougoslavie.
En ex-Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine. Et j'y suis allé, par curiosité, mais je ressentais quand même un appel. Et là-bas, les premiers jours, rien de spécial. Je me demandais même ce que je faisais là, dans ce pays qui était à l'époque très pauvre, dénudé. Disais, j'étais avec un groupe de pèlerins. Et puis au bout de quelques jours, j'étais bouleversé. Mais alors vraiment, la conversion de Saint-Paul, je ne suis pas Saint-Paul, hein, mais un éblouissement intérieur, on appelle ça une effusion de l'esprit, hein, c'est-à-dire toute une explosion intérieure. Hein,
un choc.
Une lumière, un amour fou que je sentais de Dieu pour moi. C'est ça surtout qui m'a... Alors que j'avais eu une vie un peu... un peu désordonné, hein, on va dire, avant. Je me sentais pardonné, je me sentais vraiment aimé. Ça a été un bouleversement, vraiment. Pendant plusieurs mois, il suffisait que je rentre dans une église pour être complètement... je pleurais, j'avais vraiment envie de prier tout le temps. Je pleurais le don des larmes, c'est-à-dire j'avais l'impression de me laver de ces péchés, hein, de tout cet encombrement que j'avais... choses mauvaises. Et donc, au bout de quelques mois, je me suis dit, est-ce un appel ? J'étais tenté par une vocation monastique. J'ai fait des retraites en monastère, mais rapidement, j'ai vu que je n'étais pas fait à 30 ans ou 32 ans pour être enfermé dans un monastère. Donc, je me suis dit, je vais m'engager dans la vie de l'Église. Je voulais vraiment faire quelque chose. Et à l'époque, c'était l'époque de la Roumanie, avec les problèmes Ceausescu, qui avait le pouvoir politique qui tombait. Et on amenait des remèdes, on amenait beaucoup de choses. J'ai rencontré une personne qui m'a dit, si ça vous dit, je m'occupe d'une association à Toulouse, avenue Jean Rieu, là où étaient les Capucins, mais les Carmes aujourd'hui, qui s'occupe des gens marginaux, des gens de la rue. On donne des colis alimentaires, on prie avec eux, un chemin de guérison, un chemin d'accompagnement pour ces personnes. Et là, ça a été une rencontre avec le monde de la rue, le monde des marginaux. Et je pense que le Seigneur m'a appelé. On a chacun un charisme, chacun un appel. M'a appelé à être auprès de ces gens-là. Souvent, je dis que les pauvres, les gens un peu marginaux, viennent vers moi comme si j'étais un aimant. Ils viennent vers moi. C'est curieux, c'est un charisme que j'ai. Je suis toujours senti appelé par ces personnes-là. Auprès de ces personnes-là.
Et là, vous rencontrez votre épouse, voilà. Vous vous mariez, vous avez une famille nombreuse.
5 enfants, oui. Voilà, qui est à Pibrac.
Qui aujourd'hui tous font des carrières, et vous avez réussi à leur donner une éducation religieuse, j'imagine.
Scoutisme. C'était très important pour moi, scoutisme. Je m'occupais aussi, j'ai fondé la maîtrise à la cathédrale de Toulouse avec d'autres personnes, à la demande de Mgr Le Gall. C'était donc dans le cadre de la Fédération des Puéricantores. Et mes enfants ont chanté dans ce chœur, etc. Enfin. Et puis, mais au point de vue, mes enfants, bon, 3 sur 5 ont adhéré à la fois, puis j'en ai deux qui ont, pour l'instant, sont en stand-by. Ils
n'ont pas eu la révélation que vous avez eue à l'âge de 30 ans.
Voilà.
Et alors, parlons de, justement, Notre-Dame des Frères de la Rue. Donc, c'est une association nationale et vous prenez la présidence de cette
association. Elle n'est pas nationale, c'est une association qui a été fondée en 1986 par une religieuse, sœur de Jésus, qui est sœur Monique, qui est revenait du Brésil, qui s'est occupée dans les favelas d'enfants pauvres.
Effectivement.
Et elle avait, suite à un groupe de prière de l'Olivier à Toulouse, qui était dans une église des Jésuites à Toulouse, et qui ont, dans la prière, elle a senti qu'elle devait monter, ce qu'elle faisait au Brésil, une association pour aider les personnes en difficulté, personnes marginalisées, les aider à reprendre un peu le goût à la vie, les aider matériellement, spirituellement. Et moi, c'était en 86, et moi je n'ai connu l'association qu'en 91.
En 91, donc là, très vite, vous prenez la présidence, vous allez présider ça pendant 20 ans.
Pendant 20 ans, oui.
Pendant 20 ans, et ensuite vous passez cette présidence, je crois, à Bernard de Frommel, qui malheureusement nous a quittés à cause du Covid, oui. Et vous avez repris ensuite la présidence.
Voilà, il y a eu une présidence par intérim pendant 6 mois, 1 an, par une personne qui s'était dévouée pour ne pas abandonner l'association, et puis arrivé l'ultimatum pour savoir est-ce qu'on fermait, est-ce qu'on arrêtait. Je me suis dit, j'étais tellement attaché à cette association que j'ai repris la présidence, effectivement. C'est pas du tout pareil qu'avant. À l'époque, c'était quelque chose de très important. Nous étions très nombreux, nous montions des pièces de théâtre. On avait des maisons dans Toulouse où on logeait les personnes de la rue. On avait une antenne médicale. Aujourd'hui, c'est une association beaucoup plus modeste, qui est basée à Saint-Exupère, où nous accueillons tous les jeudis. Alors évidemment, la population a changé. Aujourd'hui, ce sont beaucoup de migrants, beaucoup de gens sans papier, peu de Français. Donc il y a un problème de la langue, mais on essaye quand même dans la paroisse, avant la distribution des colis alimentaires, on essaye de faire un temps de prière avec des gens comme les Arméniens, comme des Bulgares, comme des Albanais, des Martiniquais, enfin des gens qui ont catholiques, chrétiens catholiques, qui veulent prier. Donc on a un moment pendant 45 minutes de rencontre dans la paroisse, dans l'église.
C'est le dimanche ?
C'est le jeudi.
Le jeudi.
À Saint-Exupère. Et après, nous allons le mercredi chercher une tonne d'aliments à la banque alimentaire. Et nous préparons le jeudi matin des colis pour ces personnes qui sont dans un dénuement total. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une situation très, très compliquée vu l'inflation, le prix de la nourriture. Et on a des gens qui ont faim aujourd'hui. C'est pas du cinéma, hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent, qui n'ont pas un sou pour acheter de la nourriture. Donc on distribue 40 à 50 colis tous les jeudis. Donc on fait appel à des dons.
Comment on peut rentrer en contact avec vous pour vous aider, pour venir éventuellement contribuer physiquement ou par des dons? Il y a un site internet.
Il y a mon site internet à moi. Nous avons un bureau, hein, donc avec. Mais le mieux, c'est de nous rencontrer le jeudi
à Saint-Exupère,
14h à Saint-Exupère dans la cour.
Ouais.
C'est le rassemblement. Nous avons le prêtre, là, Père Philippe Parent, nous loue des pièces, hein, des salles. Ouais. Donc on a une salle pour l'accueil des migrants, des personnes.
Jeudi à 14h à Saint-Exupère pour vous rencontrer, c'est là, et là on peut vous aider de différentes façons,
soit en
vous aidant à faire les colis, à distribuer les colis.
Voilà, distribuer les colis, préparer même le jeudi, le matin les colis, le mercredi aller les chercher à la banque. Nous avons un camion.
Oui.
D'ailleurs, Les gens peuvent nous aider parce que nous avons notre camion qui est foutu, donc on est en train d'en acheter un autre. On n'est pas très riche. Et donc, c'est indispensable pour nous d'aller chercher cette nourriture. Et donc, nous avons du travail, c'est sûr. On a une douzaine de bénévoles, mais pour l'accueil, par exemple, l'accueil de ces personnes qui ne parlent souvent pas le français, il faut être accueillant, il faut être bienveillant, il faut parler avec elles. On essaye de savoir un peu leur situation, si elles ont des familles, etc. Comment les aider, parce que nous avons aussi une aide. Nous aidons des personnes en difficulté pour les loyers, pour leur trouver des logements, pour les inviter à parler le français dans des organismes. Enfin, il y a pas mal de... On a deux ou trois bénévoles qui sont spécialisés pour ça, quoi.
Et cette évolution de la précarité dont vous parliez, finalement, beaucoup d'étrangers par rapport à ce que vous avez connu il y a 20 ans, beaucoup d'étrangers, de migrants, souvent sans papier, dans un dénuement souvent extrême. Vous avez le sentiment que ça se développe? Comment vous percevez-vous qu'il y avait sur le temps long cette aide aux gens de la rue, aux gens les plus démunis? Comment vous voyez cette évolution?
Il y a une évolution énorme. C'est tous les jours, tous les jeudis, des nouveaux visages. Ce sont beaucoup de personnes du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, pas trop, beaucoup d'Africains, beaucoup de gens de l'Est aussi, Bulgares, Albanais. Et on sent, oui, effectivement, c'est un nombre incroyable. Donc on est obligé de faire un turnover, de parfois cesser la distribution pour certains pour permettre à d'autres de bénéficier, parce qu'on ne pourrait pas...
On ne pouvait pas aider tout le monde.
On ne pourrait pas aider tout le monde. C'est un problème parce que, voilà, on se sent parfois un peu... Et puis la banque alimentaire, vu la crise en ce moment dans les aliments, donne de moins en moins, étant donné que les supermarchés gèrent maintenant beaucoup plus leur stock, il y a moins de dons des grandes surfaces. Oui. Donc on a moins d'aliments, et donc on donne des colis plus maigres, on est embêté, quoi. Donc, oui.
Et pour le logement, comment c'est organisé? Vous réussissez à loger, à héberger de temps en temps?
On leur donne des adresses de logements collectifs, par rapport au GAF notamment. C'est un groupe dirigé par le frère Jean-Louis Gallo, franciscain, qui, quand ce sont des personnes vraiment dans la rue, qui peut les loger dans différents lieux. Il a des maisons sur Toulouse, ou bien les accueille. Et parfois, nous avons pris en charge carrément des personnes pour leur trouver directement un logement dans un appartement. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, vu qu'ils n'ont pas de... Très difficile de...
Et vous êtes en relation avec les services de l'État, la préfecture, la mairie, peut-être?
On a toujours voulu ne pas faire partie du collectif d'association de la mairie, vouloir avoir une certaine indépendance par rapport à notre mission d'église. Toujours voulu, c'était une question un peu de faire confiance à la Sainte Providence, et ça a toujours marché. On est très indépendant dans notre façon de fonctionner. Et pour revenir à la question que vous me posiez, je fais le dimanche soir des maraudes, donc place des cochons au minimum. J'ai formé une équipe qui prépare des soupes faites maison. On fait 50 à 60 litres de soupe, des vêtements, des distributions de vêtements le dimanche soir, et on s'associe au restaurant du cœur. Et là aussi, je suis stupéfait de voir...
L'évolution.
Une évolution. On a 200, 300 personnes, pratiquement à 80-90% des migrants, des gens sans papier ou en demande de visa, mais qui sont dans des états d'errance, on va dire, sans logement, sans...
Sur le plan de l'hygiène, etc., j'imagine très compliqué tout ça.
Très compliqué, oui. Des services sociaux de la mairie leur permettent d'avoir un minimum. Il y a des accueils, le 115, mais beaucoup sont dans des squats, beaucoup sont des combines, ils logent chez d'autres copains, etc. Enfin, c'est très compliqué. Et ils viennent chercher cette nourriture. Et on se rend compte que voilà, la nourriture est devenu un élément essentiel pour ces personnes-là qui n'ont aucun revenu. Et ben voilà, comme tout le monde, ils ont faim. il faut leur donner un repas.
Et comme souvent, ils sont dans des situations où ils n'ont pas de papier qui leur permet de toucher des aides sociales, etc. Oui, ces populations-là de migrants ben, qui traversent la Méditerranée dans des conditions souvent dramatiques, ben, évidemment, oui. On les récupère.
Voilà, alors c'est un peu, parfois on se dit, on leur promet le paradis, et ça fait réfléchir, parce qu'on se dit, au fond, ils viennent là... Le soir, ils ont pris leur repas, on leur donne la soupe, et puis ils partent dans les rues, le froid de l'hiver. C'est une désillusion, j'imagine, énorme pour eux. Et alors, ils espèrent toujours...
pouvoir s'insérer.
Pouvoir trouver un appartement, un métier, un travail, mais c'est très compliqué. Ouais.
Hein. Alors, il y a quand même des associations qui ont pignon sur rue, qui sont organisées. Je pense en particulier à une que je connais bien, qui s'appelle l'UCRM, l'Union Pierre-Robert Mounier, qui essayent d'insérer, mais c'est vrai qu'eux aussi, ils voient un nombre de gens arriver de plus en plus important, et il y a un moment où les limites sont atteintes. Quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Mais Notre-Dame des Frères de la Rue, nous sommes dans une harmonie totale avec ces personnes, il y a un climat de paix, nous avons des musulmans qui vraiment sont très gentils, très polis, très courtois, il y a une ambiance vraiment de cohabitation qui est... Ils savent qu'on va prier, on appelle certains chrétiens, on va dans l'église, ils respectent le temps d'attente, ils attendent qu'on prie. Ils sont, d'ailleurs, il y a des conversations qui sont très... Ils sont en ramadan en ce moment, on leur dit que nous on est dans le carême, la montée vers Pâques, on parle de Jésus, on parle de Marie, c'est très intéressant. Hein. Vraiment une communion, c'est pas la même religion, on est clair, mais ils nous respectent, ils savent qu'on prie, qu'on est des croyants, et ça c'est assez formidable.
Oui, mais ça c'est une chose que l'on observe souvent. Il y a une foi quelque part qui, même si elle n'est pas dans la même religion, mais permet de créer un ciment entre les êtres, parce qu'ils ont cette idée de la transcendance. Que malheureusement manque beaucoup, je trouve, dans notre pays, et notamment dans la jeunesse, qui est extrêmement matérialiste, extrêmement orientée vers d'autres types de discours, souvent plus violents. Et cette idée de la transcendance est une espèce de ciment de fraternité qui donne une certaine forme d'espérance. Alors, je voudrais qu'on parle aussi, dans le temps qui nous reste, d'un second volet de votre engagement chrétien, catholique. C'est celui de votre rôle d'aumônier dans les prisons. Je sais que c'est quelque chose de très difficile. Vous êtes extrêmement courageux d'aller faire ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi?
Alors, l'aumônerie des prisons, effectivement, c'est une mission... Très très belle mission, mais qui est très particulière, bien sûr. J'ai assisté à une conférence il y a quelques années chez un de mes cousins où il y avait un aumônier diacre des prisons qui allait prendre sa retraite et qui parlait donc de l'aumônerie des prisons. J'ai eu un déclic. Je me suis dit, ça va me changer un peu, je vais voir connaître ce monde. Donc j'ai fait des formations, on a des formations obligatoires. C'est l'évêque, Mgr Legal à l'époque, qui nous envoie en mission, qui nous donne cette mission. Et on doit faire deux grandes formations à Paris.
Mais vous êtes diacre vous-même ?
Non, je suis laïque. Une formation donc, de l'administration pénitentiaire, donc à Paris, là où il y a la conférence des évêques. Là.
Oui.
Et il y a le SNAP 1 et le SNAP 2, donc c'est obligatoire. Et puis nous avons une formation par an aussi, régionale, d'Occitanie, avec les aumôniers. Et une fois qu'on a l'agrément de l'administration pénitentiaire, on est d'abord accompagné par d'autres aumôniers, parce qu'on ne va pas tout de suite. Parce que la particularité des aumôniers de prison, c'est que ce n'est pas comme un visiteur. Ils rentrent dans la prison, ils ont les clés des cellules. Donc on rentre dans les cellules des détenus. On a les listes des détenus inscrits à l'aumônerie, ceux qui font la demande.
Donc ils sont chrétiens généralement
Alors, chrétiens, et souvent ayant abandonné depuis très longtemps leur foi.
Mais qui ont un besoin de...
Qui ont un besoin énorme dans le milieu très très dur des maisons d'arrêt, notamment de Seyss, qui est une prison très particulière. Ils ont vraiment ce besoin c'est sûr, ils se le disent entre eux, de fraternité, parce que c'est une fraternité, c'est un vraiment. Et je vous assure que c'est une mission qui est magnifique, parce que nous, qui porte des fruits extraordinaires. Hein. Moi, je vois des conversions en prison fantastiques. Fantastiques, des gens qui, je ne citerai pas évidemment leur peine, hein, ce qu'ils ont fait, mais qui, dans leur souffrance d'avoir commis parfois des choses dures, mais qui voient le pardon, la miséricorde du Seigneur, cet amour. On leur parle souvent du bon larron, hein, qui est aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi, c'était un criminel. Ils se sentent vraiment investis de cet amour et on assiste à des conversions extraordinaires. Moi, je suis moi-même parrain d'un détenu qui a été baptisé l'année dernière par Mgr Guy de Kerinel et qui, cette année, va faire la conversion. Je suis son parrain et c'est une conversion extraordinaire, quoi. Il est complètement dans la foi, vraiment voulant, et puis partageant avec ses frères, ses co-détenus. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement tourné sur lui-même. Et nous avons, nous avons environ une centaine d'inscrits dans l'aumônerie catholique qui sont vraiment, alors avec la messe le dimanche, la chorale le samedi, l'étude des textes de la messe, etc. Enfin, il y a toute une activité. Oui.
Vous êtes celui qui va chercher la brebis égarée, quoi.
Ben voilà, parfois. Alors, ils nous donnent plus que ce qu'on leur donne. Hein. C'est toujours très angoissant de rentrer dans cet univers carcéral. Mais quand on a passé, comme ça, la visite de 5-6 détenus dans l'après-midi, on sort là, on se sent dans une joie profonde d'avoir reçu d'eux et puis de leur avoir.
D'avoir donné aussi.
D'avoir donné aussi, de leur avoir porté la bonne nouvelle. Et on a vraiment des moments parfois. C'est jamais décevant, hein, jamais décevant.
Et il y a combien de détenus à la prison de Seille et quel est le pourcentage à peu près de détenus qui ont ce désir de s'initier ou de se réinitier à notre foi?
Alors vous avez à peu près 1200 détenus à Seille. Pour une prison donnée à 600 ou 700, il y a une surpopulation.
Comme dans toutes les prisons en France.
Prisons. Mais là, c'est très spécial. Et la proportion est très faible hein, de chrétiens, catholiques.
Mais qui suivent la messe, c'est
10%,
quoi,
on va dire.
10%, c'est déjà énorme.
Je ne suis même pas sûr. Hein, parce que
une centaine de personnes le dimanche.
Oui, on a dans l'aumônerie, on doit avoir, j'ai dans les listes entre les deux bâtiments, plus les femmes. Nous n'avons pas des aumôniers femmes. Hein. Ouais. Il doit y avoir pas loin oui, de 100 inscrits. Il y a un turning où ça tourne. Hein. Mais il y a beaucoup de musulmans, évidemment, énormément. Et nous avons, il y a l'aumônerie des gens du voyage aussi, il y a les orthodoxes, il y a les juifs. Bon. Mais en aumônerie catholique, on est la plus grosse aumônerie.
Ah oui.
Nous sommes six aumôniers.
Six aumôniers.
Deux dominicains, deux diacres et deux laïcs.
Et une centaine de détenus qui suivent à peu près tous les dimanches la messe.
Alors, la messe, donc tous les dimanches, il y a les deux bâtiments, mais pour des histoires de quotas, on ne peut pas être plus qu'une vingtaine durant la messe. Donc ça tourne. D'autres ne veulent pas aller à la messe. Donc ça tourne, mais on ne peut pas avoir plus de 20 détenus à la messe.
Et il y a des gens qui se font baptiser en prison?
Alors, cette année, nous avons deux confirmations le jour de Pâques, dont un qui s'est fait baptiser l'année dernière. Les femmes, je crois qu'il y a une baptisée aussi. Donc chaque année, effectivement, il y a un sacrement donné par l'évêque.
Ouais. Et, qui se déplace donc.
Qui se déplace, qui vient aussi pour la messe de Noël. Et ça tient. L'évêque est toujours très content d'aller célébrer au milieu des détenus ou la messe de Noël ou la messe de Pâques.
Et alors, ça sera ma dernière question parce que le temps passe trop vite. Mais est-ce qu'il y a un suivi après? C'est-à-dire quand ces gens sortent de prison, est-ce que vous êtes amené à les revoir
Alors malheureusement non, parce que c'est une maison d'arrêt. Donc ils attendent leur jugement en maison d'arrêt. Hein.
Ah oui.
Et donc, une fois qu'ils ont le jugement, ils partent en centre de détention. Ça peut être dans toute la France, ou Muret, le centre. Donc, on les perd de vue. Mais vous savez que dans une maison d'arrêt, ils peuvent rester parfois très longtemps, parce qu'ils font appel, cassation, etc. Donc, ça peut durer...
plusieurs années, oui.
Plusieurs années. Donc, depuis 4 ans que je suis aumônier, il y en a que je vois depuis 4 ans. Hein. Et là, il y a un travail intéressant, parce que là, on en a vraiment qui sont... On a même certains qui veulent être diacre en sortant.
Mais on a, je ne citerai pas de nom, mais on a autour de nous, dans nos paroisses, dans nos églises, plusieurs personnes qui ont fait ce chemin et qui sont des gens formidables ensuite. Hein,
comme quoi, pas, hein.
La rédemption, c'est quelque
chose.
La rédemption,
oui, c'est
Fabrice Bastier, notre temps est malheureusement écoulé trop vite parce que la richesse de tout ce que vous faites et de tout ce que vous donnez aux autres est passionnante. Donc merci d'être venu partager ce moment avec nous.
Je vous en prie.
Et puis je redis que si on veut venir aider l'association Notre-Dame des Frères de la Rue, c'est à Saint-Exupère le jeudi après-midi. Voilà. Vous faites la distribution de colis. Et
nous avons un chapelet à 16h30 dans l'église Saint-Exupéry aussi,
ouais.
Pour porter toutes les personnes
aussi.
Dans la prière devant Marie.
Voilà, donc voilà. On peut venir vous rejoindre et vous donner un coup de main si
merci
on a
beaucoup.
Un peu de temps. Merci, monsieur Bastier.
Merci.